Amen. Tu as les mains froides, Carly. C'est bien, t'as... Ouais, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un peu moins chaud, vous êtes d'accord, hein ? On est bien, là, ensemble, dans la présence du Seigneur, et je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin. On va lire un texte, et j'aimerais juste, en introduction, vous demander quel type de personne vous êtes. Alors, quand je pose cette question, c'est un peu large. Hein. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre et se servir, qui aime saisir les choses, ou vous êtes plutôt quelqu'un qui aime donner ? Quel type de personne vous êtes ce matin ? Qui aime donner, qui aime servir, qui aime... je sais qu'il y a une... Vous allez dire qu'en tant que chrétien, il faut être la deuxième catégorie, je sais. Mais c'est vrai que des fois, parfois, on peut être comme ça dans la société aussi. On peut être quelqu'un qui prend... Hein, qui met la main sur quelque chose, qui saisit, et puis on peut être quelqu'un qui donne. Et ça va aller dans ce sens, ce matin, ce texte, dans le sens de donner, puisque dans ce deuxième livre des Rois, on découvre une belle scène où le verbe donner est cité à 4 reprises. Et je vous invite à suivre avec moi ce texte. Si jamais c'est un peu ma traduction à moi depuis l'hébreu, c'est peut-être pas la même que la vôtre. Un homme arriva à Baal-Shalisha, il apportait du pain, des prémices à l'homme de Dieu. Dans le contexte, c'est Élisée, c'est le prophète Élisée. Il apporta donc 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens pour qu'ils mangent. » Son assistant, dans le contexte, c'est Géasi, répond, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes. Mais Élisée dit, donne à ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura des restes. Cet homme donna alors les pains devant eux et ils mangèrent et eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Amen. On voit qu'il s'agit d'un texte qui parle de multiplication des pains. C'est vrai que cette multiplication des pains a lieu en présence du prophète Élisée. Et vous savez ce que Élisée veut dire ? Elisha en hébreu. Dieu a sauvé. Et ça vous fait peut-être penser à un autre prénom du Nouveau Testament qui est Jésus. Qui veut dire quoi en hébreu ? Si on dit Yeshua, c'est un nom hébreu. Dieu sauve. C'est intéressant de voir qu'il y a un parallèle entre ces deux histoires. Peut-être qu'on connaît bien les scènes de multiplication du pain dans le Nouveau Testament avec Jésus et ses disciples hein, qui multiplient 5 pains notamment. Il y en a 2 épisodes. Mais on connaît peut-être un peu moins l'histoire d'Élisée qui multiplie aussi ici 20 pains d'orge. On voit que Élisée aussi dit à son serviteur à ce moment-là, donne à ces gens, littéralement donne à ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Ce qui est intéressant aussi de relever dans ce texte que nous avons lu, c'est la réaction de l'assistant du prophète. Donc Géasi, hein, qui servait à côté du prophète Élisée, et il exprime des doutes. Il dit comment donner ces 20 pains pour nourrir 100 personnes ? Ce qui semble assez logique comme question. Et Élisée insiste et répète son ordre, donne à tous ces gens pour qu'ils mangent. Alors, si on réfléchit un petit peu, quelques secondes, on se dit que Élisée n'a pas demandé quelque chose de très compliqué. Alors, c'est sûr que la multiplication, c'est quelque chose que Dieu est exceptionnel, mais on est d'accord. Mais dans le fait de donner ses pains, Élisée ne lui a pas demandé quelque chose d'impossible à faire. Et on voit que ça fait réagir Géasi. Il a simplement demandé à cet homme d'ouvrir ses mains et de donner sans se poser trop de questions. Et le texte nous dit qu'il y a eu ce miracle. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu ce matin sur la question que pose donc le serviteur d'Élisée, la question qui est comment donner ce qu'on n'a pas. Et on trouve ce même raisonnement, cette même question chez les disciples quand Jésus va multiplier, va le dire, mais donnez à la, nourrissez cette foule, il y aura cette même question. Comment nourrir cette foule? Comment donner ce qu'on n'a pas? Quand on parle de donner, si on parle de la théologie du don, il y a deux manières de voir les choses qui ne sont pas forcément contradictoires, qui sont deux manières différentes de donner. Et dans ces deux manières, la première que j'aimerais vous montrer, celle sur laquelle je m'arrêterai un peu moins ce matin, c'est la manière qui consiste à penser que, si je prends une image, nous sommes des récipients avec un contenu et on peut ne donner que ce qui déborde de ce récipient. Il faut être rempli et si on est rempli au-delà, eh ben, on peut donner ce surplus autour de nous. Et c'est une réalité. On est des gens limités. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner... nous sommes limités dans tous les domaines, que ce soit physiquement, nous sommes des êtres humains, nous sommes limités psychiquement, émotionnellement, nous sommes même limités financièrement. On ne peut pas aider le monde et donner ce qu'on n'a pas. Vous êtes d'accord? Et d'ailleurs, dans la maladie du siècle d'aujourd'hui, le burn-out, on nous dit toujours qu'il faut des lieux de ressourcement pour pouvoir re-remplir ce vase, et re-remplir ce récipient. Parce qu'on sait très bien que quand on donne tout et qu'on a tout usé, on n'a plus rien à donner et on n'a plus de jus. Et c'est le burn-out. Donc on est d'accord que humainement, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est l'image du récipient. Et Dieu est OK avec ça. Dieu ne va jamais nous demander de donner ce qu'on n'a pas. Et je l'ai prêché il y a 3 semaines, vous vous rappelez, quand on avait prêché sur Élie, qui était découragé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé un ange pour le nourrir, un miracle pour le nourrir, pour qu'il puisse boire et qu'il puisse dormir. Parce que son récipient était vide. Et il avait besoin de ressources, et même de ressources qui sont venues de Dieu extraordinaires. On a besoin des fois de rechercher les batteries par une bonne alimentation, un bon sommeil, c'est normal, c'est humain. Mais j'aimerais vous emmener dans une deuxième façon de donner, qui est un peu différente, dans une autre dimension du don. Et c'est ce que ce texte nous dit un peu ce matin, dans un chemin nouveau. Laurent a parlé de chemin nouveau, Dieu qui fraye des chemins. Ce chemin étonnant, une autre façon de donner. Ici, on est avec le prophète, celui qui parle de la part de Dieu, qui est en connexion avec Dieu, l'homme de Dieu. Et on est sur le terrain de l'illimité. Parce qu'avec Dieu, Dieu n'est pas limité comme nous. Avec Dieu, on est sur le terrain de l'illimité. Et cette autre façon de donner, c'est de ne pas se voir comme un récipient, mais de se voir comme une source. Une source où quand on donne, on reçoit. Parce qu'essayez de vous imaginer d'être connecté à la source, qui est Dieu justement, qui est illimité, et d'être ce canal justement. Et quand je donne, je ne suis pas comme le récipient qui n'a plus rien, mais je reçois parce qu'il y a une source, je suis ce canal qui redonne parce qu'il reçoit à nouveau. Et c'est un petit peu le titre de mon message, « Donner » et recevoir. Ce sont les deux mots que j'ai reçus pour nous. Et j'aimerais un peu plus développer cette deuxième manière de donner ce matin. Alors, ce qui me frappe d'abord dans ce texte, ce n'est pas le miraculeux. J'aimerais vraiment vous dire ça, que nous, ce qui nous frappe en premier humainement, c'est le miraculeux, n'est-ce pas? De voir cette multiplication, c'est extraordinaire. Mais si vous regardez un peu plus le texte, c'est quoi la finalité de ce miracle? Ce n'est pas pour dire que Dieu est puissant seulement, mais parce que Dieu veut agir et répondre à un besoin. C'est ça le but du miracle. Dieu veut répondre à un besoin. Vous savez, quand on se convertit, on voit beaucoup Dieu agir dans notre vie. Au début de notre conversion, quand on revient à lui, on voit des miracles, on voit son action. Parce que Dieu veut nous montrer sa puissance. Il veut nous montrer qu'il nous aime. Mais le miraculeux n'est jamais le but en soi. Et parfois, on recherche cette dimension dans notre vie, mais attention, car le miraculeux n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour faire quelque chose. Et quel est le besoin auquel le miracle répond ici, d'après vous? Quel est le contexte? Est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte de ce passage que je vous ai lu? Alors moi, j'ai travaillé le texte, donc je vais pouvoir vous le dire. En fait, c'est un contexte de famine. Au verset 38, peu à peu avant notre passage, il est mentionné qu'il y a une famine dans le pays. Et juste avant ce texte, il y a un autre miracle que Élisée fait, le prophète. Il va assainir de la nourriture qui se trouve dans une marmite. Et après, on a cet épisode que je vous ai lu, où il y a une multiplication de pain. Et Élisée va répéter par deux fois la finalité du miracle. Il va dire « Donne à ces gens pour qu'ils mangent. » Donne à ces gens pour qu'ils mangent. D'ailleurs, une traduction plus littérale, ce serait « Donne à ce peuple », même si c'est 100 personnes. « Donne à ce peuple », il y a un écho, « Répond aux besoins du peuple d'Israël qui est dans la famine ». C'est ça le contexte. Répond à ce besoin. Quelque part, il y a un écho. C'est le même mot que pour le peuple d'Israël. Nous sommes environnés, nous qui sommes le peuple aussi du Seigneur, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes environnés autour de nous de personnes qui ont des immenses besoins. Que ce soit des besoins matériels, et depuis la sortie de la crise, on le voit d'autant plus. Beaucoup de gens, de la crise du Covid, de la crise de tout ce qu'on entend, et aussi de la cherté de la vie, on voit les besoins matériels. C'est plus compliqué pour beaucoup de gens. Mais pas que matériel. Même physique, psychique, émotionnel et spirituel. Il y a beaucoup de détresse autour de nous. Et comme Géasi, on peut des fois, face à ses besoins, face à cette difficulté, dire au Seigneur, mais comment est-ce que je peux répondre à ces besoins? Comment est-ce que je peux répondre à ce besoin? Parce que je n'ai pas la ressource pour le faire. Peut-être que vous rentrez de vacances, pour certains, et que vous êtes ressourcés. Il y en a encore qui se ressourcent parce qu'il y a un gros trou ici, là. Ils sont en train de se ressourcer. J'arrive, ça me capte ce gros chaise vide. Voilà, peut-être que vous êtes ressourcés pendant ces vacances. Vous êtes fait du bien. Et vous avez peut-être même déjà repris votre travail. Et peut-être que, vous savez, s'il y a ce phénomène, après une semaine de travail, on a déjà oublié qu'on était en vacances. Tellement c'est intense. Et on se dit, mais c'est tellement loin les vacances. J'ai déjà utilisé tout mon capital ressource. Seigneur, comment je vais tenir jusqu'aux prochaines vacances? On est un peu dans ce monde-là, un peu fou. Hein. Peut-être que cet été, vous avez apprécié d'être en famille, pour ceux qui ont des enfants, et de ne pas avoir à les lever à 7h ou à 8h pour les amener, de ne pas avoir de programme et de pas qu'ils puissent rester en pyjama jusqu'à 11h du matin. Bon, c'est pas vraiment que des vacances, les vacances avec les enfants, je vous rassure, mais de ne pas devoir courir à l'école, de trajet en trajet, etc., etc. On passe par des moments comme ça où on se dit, mais... Et puis après, quand ça reprend, on dit, mais comment je vais faire cette rentrée? Comment tout recommence là? Comment je vais y arriver? Où est-ce que je vais retrouver la ressource pour le faire? Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Même moi, je me suis posé cette question cet été. Comment, moi, Christian, je vais répondre aux besoins de l'Église dans cette nouvelle étape d'Église? C'est vrai, Christophe et Sabine ne sont plus là. Et matériellement, humainement, je suis limité. Seigneur, comment tu vas faire? Comment je vais faire? En tout cas, moi, je n'ai pas les ressources pour faire le travail de deux pasteurs. Ça, c'est sûr et certain. Alors, c'est toi qui vas le faire ou moi, je ne le fais pas. Hein. Je veux tenir sur la durée. comment, c'est une vraie question qu'on peut se poser, une vraie question, comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ces besoins qui sont autour de nous? Alors ce matin, je veux éviter le discours moralisateur et légaliste qui dirait « yaka ». Il faut faire aller, comme on dit. Ou en tant que chrétien, il faut donner, allez, donne, tu verras bien, ça, vas-y. J'aimerais ce matin vous donner une piste au travers de ce texte pour vous encourager à être cette source, comme je l'ai dit. À porter vers le regard vers notre Seigneur qui est la source et à mettre notre foi dans ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que Élisée, il n'a pas dit « Oh, il y a une famine, bah tiens, je vais multiplier des pains. » Ce n'est pas dit comme ça humainement parce que je pense qu'il a reçu une direction du Seigneur. Il a reçu une parole du Seigneur. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il n'était pas, à mon avis, il n'a pas dit « Ah ben, je vais essayer, je vais mettre ma foi en action comme ça, la première chose qui arrive, ou dans un positivisme, voilà, on va essayer, puis ce n'est pas réaliste. » Parce qu'on sait très bien que la nourriture ne se multiplie pas comme ça. Les ressources ne se multiplient pas comme ça. En tout cas, on le saurait, parce qu'on aurait réglé, à mon avis, la faim dans le monde, si on savait que les pains se multipliaient. Non, il ne regarde pas à ce qu'il n'a pas, il regarde au Seigneur. Et c'est le premier point que j'aimerais relever avec vous dans ce texte. C'est écouter ce que le Seigneur a à dire. Écouter. La première chose à faire face aux besoins criants qui nous entourent, ce n'est pas par nos propres forces de courir et de répondre à tous les besoins, par nos propres forces. Mais c'est d'écouter Dieu et de se mettre à son écoute et de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on a besoin d'entrer sur le terrain de Dieu, sur la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu dit, en fait? Nous avons besoin de passer du temps avec Dieu pour recevoir sa pensée, pour recevoir sa stratégie, pour recevoir comment il veut faire les choses. Et on le voit très bien entre Élisée et son serviteur. Élisée, il a reçu quelque chose. Sinon, il n'aurait pas cette assurance pour dire cela. Il le répète deux fois quand il y a ce questionnement de son assistant. Et son assistant, lui, on sent qu'il n'a pas reçu cette direction. Parce qu'il réagit humainement comme n'importe qui aurait réagi. Ça veut dire que le texte ne nous dit pas. Le texte ne dit rien par rapport à ça, mais on est persuadé que Élisée a reçu une direction. Et pour recevoir une direction, nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Parce que Dieu nous attend, veut nous dire des choses. Mais si on est trop occupé à courir dans tous les sens, à faire 10 000 choses, à vouloir essayer par nous-mêmes, on n'entend même pas Dieu nous parler. Amen. C'est un petit peu direct ce que je dis, mais tellement vrai, et pour ma propre vie. Combien de fois j'ai essayé de faire par mes propres forces, d'aller trop vite, de ne pas aller assez vite aussi par moment, quand Dieu me dit « va plus vite ». Entendre. La première des choses, c'est entendre ce que Dieu veut dire face à ce besoin. La deuxième chose, le deuxième verbe que je pourrais dire, c'est obéir. Parce que entendre ne suffit pas, c'est obéir. Et c'est ce que c'est ce qui va se passer. Dieu lui dit de donner ses pains. Donne ses pains autour de toi. Une fois qu'on a reçu la direction ou la parole de Dieu, ça ne suffit pas dans notre vie pour que le miraculeux se passe. Vous êtes avec moi? Une fois qu'on a reçu la direction de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut mettre en action cette parole. Marcher sur cette parole. Agir sur cette parole. L'épître de Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors on a très mal compris cette épître, surtout Luther qui avait redécouvert le salut par la foi et pas par les œuvres. Il sortait d'un contexte catholique, d'une église qui a pratiqué beaucoup de choses, de traditions. Il a redécouvert ce salut par la foi. Oui, bien sûr qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Mais ce n'est pas ça que Jacques nous dit. Jacques nous dit que la foi sans l'action est morte. La foi, sans la mettre en action, est morte. Je vous donne un exemple. Quand Abraham a entendu la parole de Dieu, qui lui a dit, « Va, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, et va vers le pays que je te montrerai. » Je ne sais même pas si Dieu l'avait dit Canaan, mais bon, en tout cas, « Va vers le pays que je te montrerai. » Oui, parce que c'était le projet aussi du père. Mais il entend cette parole. Ça aurait pu en rester là, en fait. Il a entendu Dieu lui dire ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'a été la deuxième étape ? Ça a été de mettre en action. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a résilié le bail de son 5,5 pièces avec vue sur le lac de Charan. Ben ouais, il faut le faire quand même. Hein ? Il a résilié et il a chargé les dromadaires et les chèvres. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Je suis totalement freestyle. Mais il a chargé tout le matériel, quoi. Il a pris tout le monde avec lui et il s'est mis en route. Et à ce moment-là, je me suis dit, il a dû se dire... Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est j'ai bien entendu ? Il a dû se poser cette question, je suis sûr. En tout cas, moi, je me serais posé. Est-ce que j'ai bien entendu, maintenant que j'ai résilié le bail et que je suis sur la route, là ? Bon, Seigneur, c'est bien toi. Hein, Il s'est mis en action. Jacques dira que si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Le miracle vient quand j'ai donné, pas avant. Allô ? Le miracle vient quand j'ai donné, pas avant. Vous voulez voir des miracles ? Donnez. Faites ce que Dieu vous dit. Quand j'obéis et je mets en pratique, car je mets ma foi en action. Un petit enseignement encore sur la foi. Un autre exemple d'un homme de foi, c'est Pierre. Vous connaissez tous Pierre, hein ? Bon, voilà, on a beaucoup parlé de lui. Pierre est un homme qui vraiment ose. Alors, il fait des fois des erreurs, mais c'est un homme qui ose dans sa foi. Il ose faire les choses. Des fois, en tant que Suisse, des fois, on n'ose pas trop, on ne prend pas trop de risques. Alors, bien sûr, quand on prend des risques, ben, il se passe des choses, des fois, pas chouettes, mais il peut se passer des choses extraordinaires. Il est dans la barque. Sur les 12 disciples, c'est lui qui sort de la barque, pas les 11 autres. Et Pierre a compris ce que c'est la foi. Ce n'est pas « Ah, j'ai envie de sortir de la barque pour montrer que je suis meilleur que les autres ». Ah, j'ai envie de sortir de la barque parce que j'ai envie de voir ce que ça fait. Ou parce que, en tant que chrétien, on doit marcher sur les eaux. Ça, c'est la règle du christianisme. Non. Mais des fois, on peut lire vraiment, parce qu'on est tellement concentré sur le miraculeux. En fait, il dit à Jésus, parce qu'il lui a tout compris, Pierre, il dit à Jésus, dis-moi de venir vers toi. Pourquoi il lui dit ça ? Parce qu'il sait que Jésus, qui est le Créateur, qui est Dieu fait homme, ça, il a eu la révélation. Il sait que si Jésus lui dit « Pierre, viens », il ne va pas marcher sur sa foi, mais il va marcher sur la parole que Jésus dit, et il met sa foi, pas dans sa foi, mais dans la parole de Jésus. Et là, il se dit, c'est le Créateur du monde, les cellules de l'eau, H2O, là, vont devenir solides sous mes pieds, parce qu'elles vont obéir à ce que lui a dit. Et il met sa foi sur la parole de Jésus et marche sur l'eau. Et à partir du moment où il n'a plus les yeux fixés sur Jésus et qu'il regarde la tempête à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe ? Il coule. Parce que sa foi n'est plus fixée sur Jésus. Et écoutez-moi bien, c'est vraiment un enseignement très important. Dieu ne regarde pas à la quantité de foi que tu as. Parce qu'il n'y aura peut-être jamais assez suivant le besoin. Dieu ne regarde pas, Carlie nous avait dit, il nous a rappelé le grain de moutarde quand il avait prêché. Le grain de moutarde, c'était ce petit grain dans le Proche-Orient qui est minuscule. Il dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer une montagne. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la quantité de foi qui compte, c'est l'objet de ta foi. Dans quoi tu mets ta foi ? Amen. Ah, ça détend hein, tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui ont une grande foi et des gens qui ont une petite foi. Oh, c'est OK. Élisée avait reçu une direction du Seigneur, Dieu veut nourrir ses affamés et multiplier les pains. Et il a mis sa foi dans cela. Élisée aurait pu rester là, entendre la voix de Dieu. C'est super, Dieu veut nourrir tous ces gens. Ben, on va attendre de voir ce qui se passe. Il met sa foi en action. Et il dit au serviteur, à cet homme plutôt qui apporte ses pains, donne à cette foule. Il y a un mouvement. Il y a un acte de foi. Et à partir de là, où j'entends et j'obéis, il se passe autre chose dans ce texte. Il y a une opposition. Eh oui, il y a une opposition. Parce que les actes de Dieu, ce que Dieu veut faire, il y a une opposition. Parce que Dieu n'est pas le bienvenu dans ce monde. Ce monde est touché par le péché, nos vies sont touchées par le péché. Et cette opposition est d'abord, très souvent, une opposition intérieure. C'est-à-dire que la première opposition à la parole de Dieu que nous recevons, c'est d'abord nous-mêmes. C'est notre chair. C'est tellement inconcevable, c'est tellement difficile, c'est tellement en opposition avec notre réalité que d'abord, il y a une opposition de nous-mêmes. Et ça, on va y revenir. Et très souvent, il peut y avoir une opposition en nous-mêmes, mais une opposition à l'extérieur de nous-mêmes. Et très souvent, ça peut être nos proches. Ça peut être nos proches, nos amis, notre famille, ceux qui nous connaissent le mieux même, nos frères et sœurs dans l'Église, qui vont nous dire « T'es sûr que tu veux vraiment faire ce que tu viens de me dire ? T'es sûr ? Mais comment tu vas faire en fait ? T'as réfléchi un petit peu ? T'es sûr que c'est une parole de Dieu ? Tu sais que c'est pas possible ce que tu veux faire ? » Vous voyez un peu ce genre de parole ? Et là, il faut être bien armé. Il faut pas se laisser abattre par l'environnement ambiant. Parce qu'il y a un combat spirituel. Et il ne faut pas voir les gens comme des ennemis. Nous, se voir nous-mêmes comme des ennemis quand la résistance vient là. Il faut voir ça comme un combat spirituel à ce que Dieu veut faire. Et ce combat spirituel, il se manifeste malheureusement par l'un ou par l'autre. Et nous devons combattre dans la prière. Pas réprimander les gens en disant « T'as rien compris de ce que j'ai reçu, t'es pas la foi, tu es un... » Non ! Élisée, est-ce qu'il a fait ça ? Est-ce qu'il a dit à son assistant « Bon, t'es plus mon assistant maintenant, parce que là, t'as manqué le coche, mon pauvre. » Qu'est-ce qu'il a dit à son assistant ? Il a dit, il a répété la parole de Dieu. Il l'a répété une deuxième fois. C'est-à-dire que on doit dans un combat spirituel, pas un combat contre des personnes. C'est-à-dire qu'il reproclame. Et vous avez vu, quand il répète, il redit exactement la même phrase et il rajoute quelque chose, si on n'avait pas bien compris. Et il rajoute ce qu'il a reçu, parce qu'il regarde ce qu'il dit. Il dit, la deuxième fois, « Donne à ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura des restes. » Et parce que des fois, les gens disent, « Oh, mais ça, c'est toi qui penses ça. » Non, c'est le Seigneur qui me l'a donné. C'est pas moi. Moi, humainement, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas dit ça. Mais c'est le Seigneur. Il proclame ce qu'il a reçu. Et des fois, on a besoin de le dire à haute voix. C'est pour ça qu'on vous encourage des fois à proclamer les promesses de Dieu. Pas parce que c'est bien de prier le dimanche matin à l'église, mais c'est important aussi des fois de dire à haute voix quand il y a un combat. Il n'y a pas besoin de toujours proclamer. Parce que ce que Dieu avait dit à Élisée, ce n'était pas de proclamer cette vérité partout, c'était d'y obéir. C'était ça qu'il a dit. C'était de faire. Mais comme il y a une opposition, il y a un combat, alors il proclame. Ok ? Important, ça aussi. Entendre, obéir, donc donner, c'est ça, il a obéi, Élisée, et recevoir. Troisième verbe, recevoir. Ce qui me fascine dans cette histoire, je ne sais pas vous, mais c'est qu'il y a des restes. Moi, j'aime bien manger, alors j'aime bien qu'il y ait des restes. Non, mais ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que c'est le cœur de Dieu, la générosité de Dieu, il y a des restes. Waouh ! Ça me fascine encore plus que le miracle. Mais c'est de dire, mais Dieu a donné plus, parce que Dieu est Dieu. Il aurait pu dire, je calcule juste pour les 100 personnes. Et puis, l'indication qu'il y a des restes, c'est de dire aussi, ça c'est intéressant, c'est de dire que les gens ont mangé à satiété. Ils sont bien rassasiés. C'est-à-dire, j'étais une fois en mission au Liban et il y a un mot qui j'avais dit chaque fois qu'on allait chez des gens, ils nous donnent une sorte à manger quoi. Ils nous donnent à manger parce que c'était le signe d'accueillir quelqu'un dans la maison. C'est là-bas dans la culture, c'est de donner à manger. Donc à 3h de l'après-midi, vous avez visité des gens, ils vous sortent à manger. 3 heures d'après-midi, alors que vous avez mangé avant, parce que vous avez visité 4 personnes dans la journée. Donc là, il y a un moment, j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit, un mot, je ne me rappelle plus exactement. J'ai dit, I'm full, je crois, c'est ça. J'essaie de dire en anglais, parce que je ne parlais pas très bien anglais. Et elle, elle a compris. I'm full, il y a un haricot, je crois, là-bas, qui s'appelle full, en libanais. Ah, you want full? Je vais vous chercher. Non. C'est quand on est rassasié, on ne peut plus. Hein. Et là, ils étaient tellement rassasiés, voilà, il y avait tous ces restes qui étaient là. Alors, j'aimerais nous amener un petit peu sur ces restes, et puis surtout sur le combat intérieur qu'on a quand on doit donner au Seigneur. Le combat avec nous-mêmes. J'aimerais juste m'arrêter et terminer sur ce troisième point, qui nous empêche des fois de recevoir. On donne, mais des fois, on n'arrive pas à recevoir. Parce que très souvent, quand on donne au Seigneur, quand on est dans ce mouvement de foi, de donner, on se dit, mais est-ce qu'il y aura pour moi aussi ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire aussi de la multiplication des pains avec ce petit garçon qui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons qu'il donne à Jésus. Moi, je me suis souvent posé la question, il a dû se dire, mais si je te donne mon casse-croûte, c'est mon repas quand même, hein. Est-ce que je vais le revoir ? Non, mais on est humain, quoi. C'est vrai, ce petit garçon, il se dit, je donne, mais est-ce qu'il va en rester pour moi ? Qu'est-ce qui me reste ? C'est une prise de risque, en fait, de donner et de se mettre en action. C'est pour ça qu'il y a une opposition. Et parfois, ce qui nous pousse à ne pas donner, c'est la peur et c'est le manque. Et parfois, pour recevoir, il faut lâcher. Il faut lâcher ce qu'on a dans les mains. C'est un acte de foi. Et le jeune homme, lorsqu'il donne ses 5 pains et ses 2 poissons, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Il y avait des restes. Il y avait 12 corbeilles de restes. Et je ne sais pas comment ça s'est passé à la fin quand tout le monde est parti. Hey, le petit garçon, viens ici. C'est toi, en fait, qui nous a donné au début. Bah, tiens, allez, les 12 corbeilles, c'est pour toi. Bam. Waouh. Mais il ne savait pas, le petit garçon, au moment de donner ses corbeilles, enfin, donner ses 5 pains et ses 2 poissons, il ne savait pas qu'il allait avoir peut-être tout ça. C'est une prise de risque au moment où il s'engage. Donner pour recevoir. Et parfois, on s'accroche à ce qu'on a et non pas à ce que le Seigneur veut donner. Vous savez, c'est terrible quand la parole prophétique est là, la direction de Dieu est là, et qu'il y a ce combat en nous-mêmes et cette résistance. Et ce chemin, des fois, est plus difficile à faire que tout le reste. Parce que le miraculeux, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu. Hein. Ça, c'est l'action de Dieu. Ça, c'est son affaire. Mais ce que Dieu nous demande à nous, c'est de donner. Et là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que parfois, il y a un combat en nous-mêmes entre la parole de l'Esprit qui est en nous, qui nous parle, et notre vieille nature, notre chair. Il y a un combat. Il y a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Et je ne peux pas recevoir si je ne libère pas. Vous savez, c'est quand l'image des mains, qu'on tient quelque chose, on ne peut pas recevoir si on ne donne pas. Vous voyez un peu l'image ? Je vous donne un exemple. Judas, c'était un disciple de Jésus. Mais il avait quelque chose qui le retenait. C'est qu'il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Et Jésus a parlé plein de fois de ce choix qu'il devait faire entre Dieu et Mammon. On ne peut pas avoir deux maîtres. Mais il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Et il n'a pas pu entrer dans l'appel de Dieu que Dieu avait pour lui. Parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais Jésus, quand il choisit ses 12 disciples, il est Dieu. Il sait quand même, il ne s'est pas trompé. Vous êtes d'accord ? Il s'est trompé, Dieu, en choisissant Judas ? Je ne pense pas. Donc, il avait sa place parmi les 12. Mais c'est Judas qui n'est pas entré. Judas était appelé à participer à quelque chose. Et il y a une scène très forte où il est avec les 12, il est choisi par Jésus, il marche avec les disciples et voilà qu'ils sont dans une maison et qu'une femme entre et brise un vase de grand prix, nous dit le texte. un vase qui, avec un parfum qu'elle répand sous le pied de Jésus. Et cette femme est dans le don, elle donne quoi. Elle donne à Jésus sans compter. Et Judas, c'est insupportable pour lui. Parce qu'il voit l'argent qu'on aurait pu récolter avec la vente de ce... Alors le texte nous dit que oui, on aurait pu vendre ça pour donner aux pauvres, mais le texte nous dit que non, c'est pas parce qu'il... Et c'est un bon chrétien. Des fois, on a des beaux vernis chrétiens. C'est parce que dans son cœur, il est attaché à l'argent. Et c'est ça son piège. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à lâcher. Et c'est ça qui fait une chose terrible, ça va causer sa perte. Parce que la Bible dit même qu'à un moment donné, Satan est entré en lui. Waouh ! Vous avez vu le décalage entre l'appel et la réalité. Donne pour recevoir. Alors, j'aimerais, juste pour imaginer la chose, j'aimerais vous illustrer ça. D'accord ? J'aime bien laisser une image. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui vous serait d'accord de venir comme mon assistant. Je le traite très bien, je vous rassure. Quelqu'un qui est fatigué d'être assis. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas trop être assis, qui aiment bouger. Qui c'est qui veut venir ? Ah, voilà, très bien. Je vais te donner, Alexis, tu peux te tenir là face à moi. Voilà, et je vais te donner un panier, comme ça. Et il y a des choses dans ce panier. On les verra après. Et voilà, Alexis, donc moi j'aimerais te donner quelque chose. Mais peut-être tiens le panier comme ça avec deux mains. Voilà. Qu'il soit vraiment. Il est très lourd ce panier. Il peut pas. Les mains sont prises. Et Alexis, moi j'aimerais te donner ce panier. Qu'est-ce que tu vas faire pour le recevoir? Ouais, alors on essaye comme ça. Allez. Tiens pas, non, on n'arrive pas. Hein. Je crois que. On pourrait avec un pied, tu pourrais le tenir. Non, faut que mon image ça joue. Non, c'est très lourd, tu peux pas faire ça. Alors, tu le poses, du coup, et je peux te donner ceci. Et parfois, dans notre vie, qu'est-ce qu'il y avait dans ce panier ? C'est avec moi ? Tu veux nous montrer ce que tu as reçu, du coup ? Parfois, Dieu voudrait nous donner des choses, nous donner sa paix, mais peut-être qu'il y a de la colère qui est là, qu'on ne peut pas. De la peur, de l'incompréhension. Des fois, Dieu nous aurait donné de sa ressource, de sa joie, alors qu'il y a de la tristesse qu'on ne veut pas lâcher. Et parfois, il y a de la haine qu'on ne veut pas déposer, qui est là. Des barrières qui sont en nous, et Dieu aimerait nous donner son amour. Puis on pourrait multiplier la liste, mais merci à Alexis pour son travail, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Alors je veux juste dire que ces sentiments ne sont pas mauvais en soi, hein. C'est pas un chrétien peut être triste, un chrétien peut être fâché, c'est ok, c'est juste que dans ces émotions-là, à un moment donné, qu'est-ce que j'en fais ? Quelle décision je prends ? Et là, les pensées de la chair, les pensées qui ne sont pas de Dieu, peuvent se manifester et peuvent nous bloquer, justement. Je pense que dans notre transition d'église, nous avons besoin, dans l'étape dans laquelle nous allons aller, de remettre à Dieu certains fonctionnements, certaines façons de penser, certaines résistances en nous qui sont opposées au plan de Dieu. Dieu veut donner quelque chose de nouveau à l'Église, un équipement nouveau qui nous permettra de répondre aux besoins qui nous entourent. Mais nous pouvons passer à côté de cette étape si, dans nos résistances intérieures, nous résistons à ce que Dieu veut faire et à ce qu'il nous dit personnellement. Parce que là, on est dans le personnel, hein. On n'est pas dans la généralité. Yinka avait parlé, quand il était venu, de vider notre garage. Et si nous passons trop vite sur cette étape de vider notre garage et qu'on ne le vide pas jusqu'au bout, en tant qu'Église, nous ne pourrons pas passer à la suite. Je vous le dis, hein, on ne pourra pas passer à la suite. Et Dieu est OK avec ça. Hein. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert. Dieu est OK avec ça. Il attend. Hein. Ce n'est pas de son côté que ça va bouger. C'est de notre côté que ça va bouger. Amen. Et Dieu veut quelque part nous faire passer aussi par ce détachement finalement de donner, de lâcher. Ce lâcher prise pour que la vie de Dieu, le miraculeux de Dieu, puisse agir en nous. Je vous lis pour terminer ce point, ce troisième point qui est recevoir, donner pour recevoir, avec ce combat intérieur qu'on peut vivre de la chair, dans Romains 8, les versets 5 à 8, l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair, écoutez bien, sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est elle-même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. C'est fort, ce texte. Hein ? Et si on vit selon la chair, un peu plus loin, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, de la chair, vous vivrez. Quelle promesse ! Ce chemin est parfois difficile parce qu'il y a quelque chose qui doit comme être crucifié dans notre vie. Comme Jésus est mort sur la croix, il y a quelque chose en nous qui doit mourir. Et on n'aime pas ça. La nature humaine n'aime pas ça. Mais derrière, il y a la bénédiction. Derrière, il y a la multiplication. Derrière, il y a la vie. Amen. Parce que la famine, c'était le contexte de cette histoire avec Élisée. Et la vie, c'est la vie du ressuscité qui veut agir en nous et répondre et agir au travers de nous. Alors, il me semble que je voulais vraiment partager cette pensée pour aussi la reprise. C'est aussi une continuité avec ce qu'on a partagé ces derniers temps. Et ça permet aussi de vraiment de poser les choses pour la suite dans cette nouvelle saison. Nous avons besoin de tout le monde. On a besoin de ce que vous avez à donner. Et surtout, on a besoin de se mettre à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et même si nous n'avons pas toutes les ressources, Dieu veut faire son œuvre parmi nous. Et il va nous en donner les moyens, n'est-ce pas ? C'est le Dieu illimité que nous servons, n'est-ce pas ? On sert qui ? On sert le Dieu des miracles ou pas ? Amen ! C'était le thème des enfants à l'Ascension avec Laurent, le Dieu des miracles. On sert ce Dieu-là. Et on veut se mettre à son écoute. Ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Ce Dieu qui dit et la chose arrive. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est le premier et le dernier. Celui qui possède toutes les ressources en illimité. Alors rappelons-nous de ces trois verbes ce matin. Écoutons. Obéissons, c'est donner. Et récoltons ensemble dans la joie. Recevons. Parce qu'il y aura des restes. Il y aura plus que ce qu'on a imaginé. Parce que ces hommes, il y a dû avoir une telle joie, ces hommes qui étaient dans la famine, ces hommes qui avaient faim. Quelle joie ils ont dû avoir. Quand ils avaient le ventre plein, alors qu'ils ont eu le ventre vide pendant tellement longtemps. Waouh ! Quelle joie ! Quelle joie. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. C'est ce que Dieu veut faire. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qui sort de notre bouche, c'est gloire à Dieu. Ce n'est pas gloire à moi, gloire à Élisée. C'est gloire à Dieu, parce que c'est lui qui fait ces choses-là. L'action de Dieu est toujours là pour que la gloire lui revienne. Le miraculeux est toujours là pour que la gloire lui revienne. Et le miraculeux est toujours là, pas pour faire du miraculeux, mais pour répondre à un besoin. Amen. Dieu est avec nous, au milieu de nous. Dieu sauve. Yeshua, c'est lui qui est au milieu de nous. Amen. Prions. Je vous propose que, je voulais faire un appel, mais je propose juste de vous laisser ces questions et puis que pendant le temps de Sainte-Cène, de repas qu'on va prendre, on puisse répondre au Seigneur par rapport à ces questions. Qu'on puisse prendre ce repas aussi dans cet état d'esprit, parce que ce repas qu'on va prendre représente la mort et la résurrection de Jésus, que Jésus est au milieu de nous, par ces symboles que sont le pain et le jus de raisin. Seigneur, merci pour ce qui a été partagé ce matin, cette pensée qui vient de toi. Et Seigneur, je te remets chacun et chacune ici présent. Peut-être que ce matin, tu nous demandes de nous arrêter, pour certains, de nous mettre à ton écoute, de ne pas courir trop vite dans toutes les directions. Peut-être que ce matin, tu nous demandes de donner quelque chose de plus. Et tu nous poses la question à chacun, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque de donner ce qu'il me demande de donner ? Qu'est-ce qui me retient de donner ? Un Seigneur parle à notre cœur. Merci parce que tu le fais avec douceur et tu le fais pour un plus grand bien. Merci pour qui tu es, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.